Je vous invite à considérer un passage de l'Écriture, un passage que nous avions, que j'avais préparé pour le groupe de maison, et puis en fait on était assez peu nombreux ce groupe de maison-là, puisque il y avait des malades et des occupés, et que finalement, je pense que pour la plupart d'entre vous, peut-être à part Barley et Annie, ça sera une nouveauté. Voilà. Et je vous invite à le considérer un peu comme nous le faisons dans le groupe de maison. Et d'abord, la première chose, évidemment, c'est de lire ce passage. Donc, je vous propose de le lire. C'est peut-être un peu petit, mais si vous avez une Bible, le chapitre 10 se trouve juste après le chapitre 9. Après cela, le Seigneur choisit encore 72 autres disciples et les envoya deux par deux pour le précéder dans toutes les villes et les localités où il devait se rendre. Alors, certains évangiles disent 70, d'autres 72. Alors, peut-être il y avait deux suppléants. Enfin, c'est pas très important. Il leur disait, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Demandez donc au Seigneur, à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni bourse, ni sac de voyage, ni sandales. Ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. Lorsque vous entrerez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Si un homme de paix y habite, votre paix reposera sur lui. Si ce n'est pas le cas, elle reviendra à vous. Restez dans cette maison-là. Prenez la nourriture et la boisson que l'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas d'une maison à l'autre pour demander l'hospitalité. Dans toutes les villes où vous irez et où l'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites aux gens, le royaume de Dieu est proche de vous. Mais dans les villes où vous entrerez et on ne voudra pas vous recevoir, allez sur la place publique et dites, la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, nous la secouons contre vous. Pourtant, sachez pourtant ceci, le royaume de Dieu est proche. Je vous assure qu'au grand jour, Sodome sera traité avec moins de rigueur que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui se sont produits au milieu de vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient changé de vie et l'auraient manifesté en revêtant des habits de toile de sac et en se couvrant de cendres. C'est pourquoi, au jour du jugement, ces villes seront traitées avec moins de rigueur que vous. Et toi, Capernaum, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel ? Non, tu seras précipité au séjour des morts. Et il ajouta, « Si quelqu'un vous écoute, c'est moi qui l'écoute. Si quelqu'un vous rejette, c'est moi qui le rejette. Or, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Quand les 72 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie. Et il disait, « Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » « Oui, leur répondit-il, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits nouveaux, mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Alors, je vais vous poser des questions, puis vous allez me répondre. Quelle était la mission de ces envoyés, de ces missionnaires ? C'était quoi leur mission ? Annoncer la bonne nouvelle. Oui. Et puis, Pardon ? De guérir les malades. Et puis ? Chasser les démons. Et puis ? En premier, c'était de moissonner. Quelle est la première chose qui est dite ? Qu'il devait dire ? Avant ça, que la paix soit avec vous. C'était d'abord des envoyés de paix. Et puis ensuite, il devait guérir, il devait dire effectivement, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et qu'est-ce que ça veut dire, le royaume de Dieu s'est approché de vous ? Ben, ça veut dire Jésus arrive. Est-ce que vous avez vu le contexte ? Il devait aller, il devait précéder Jésus dans des villes où il allait venir. En fait, Jésus leur donne un peu le rôle que Jean-Baptiste avait eu déjà. Le rôle de le précéder, le rôle de précurseur, d'annoncer, il va arriver. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. C'est un message positif, un message de paix, un message de bonne nouvelle. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y avait autre chose qu'il devait dire. Tout dépendait comment ils étaient accueillis. Mais il y avait aussi un message de jugement. Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Vous ne nous accueillez pas ? Eh bien, le jugement va arriver. Mais sachez quand même que le royaume de Dieu est proche. La tonalité générale, elle est plutôt constructive et positive. Alors, on va se mettre à notre époque. À quoi est-ce que ça ressemble à notre mission, à nous ? Bon, j'aurais pas dû vous mettre les réponses, hein. Fermez les yeux. J'aimerais juste faire une petite incursion dans la première épître de Pierre, au chapitre 2 et au verset 12. Qui nous dit ceci, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Quand nous sommes, parce que nous aussi nous sommes envoyés, hein, depuis Matthieu 28, juste avant l'ascension, hein, « Allez, faites de toutes les nations des disciples », depuis ce jour-là, tous les chrétiens sont des envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. Et nous sommes des envoyés qui précèdent le Seigneur. Je ne sais pas si vous voyez, moi ce qui m'a frappé dans ce texte de 1 Pierre 2, c'est qu'il va y avoir un jour où Dieu va visiter les gens. Et ce jour-là, ils devront se souvenir que des chrétiens ont agi de telle ou telle façon. S'ils ont un mauvais souvenir, eh bien, ça jugera forcément sur leur décision lorsque le Seigneur les visitera. Et je pense qu'on est un peu dans la même perspective lorsque nous parlons du Seigneur à quelqu'un. Peut-être que ça ne va pas imprimer tout de suite. Peut-être qu'il n'y aura pas d'écho tout de suite. Mais un jour, le Saint-Esprit va venir parler à cette personne. Et ce jour-là, ce qu'on lui aura dit, mais ce qu'on aura été aussi, nous-mêmes, va retentir et peut-être va jouer sur la façon dont il va répondre à cet appel. Nous n'avons pas, nous, le pouvoir de convertir, mais nous pouvons, dans un certain sens, précéder le Seigneur. Parce que l'Esprit du Seigneur va venir ensuite parler aux personnes auxquelles, et qui nous auront vus marcher qui nous auront vus agir, quelle impression nous leur aurons laissé. Et puis, annoncer la bonne nouvelle, apporter la paix. Est-ce que nous, chrétiens, nous sommes messagers de paix? En plus, vous avez vu, c'est très pratique la paix. C'est un boomerang. Vous avez vu dans le texte? La paix reviendra vers vous. Celui qui sème la paix récolte la paix. C'est bien. Alors, ne nous privons pas. Semons la paix. Et puis, il y a la partie plus difficile. Avertir du jugement. Ce message, vous ne le recevez pas. Alors, nous vous laissons dans votre poussière. Mais cette poussière, un jour, quelqu'un vous en réclamera des comptes. C'est pas vraiment à la mode, hein, d'avertir les gens que le Seigneur va juger un jour. Hein, c'est pas très dans le vent. Mais c'est aussi ce qui était demandé à ces missionnaires, et c'est aussi ce que le Seigneur attend de nous. Alors, peut-être que on n'a pas à faire comme Jonas à Ninive, de dire encore 40 jours et votre ville est détruite, parce que d'abord, on ne le sait pas. Mais n'oublions pas aussi que nous devons avertir les personnes qui marchent sans connaître le Seigneur. Alors, autre question, que faire lorsqu'on constate qu'un grand nombre de personnes ne connaissent pas le Seigneur? Ben, vous n'avez pas lu le texte? La première chose, prier. La première chose, avant de mettre des banderoles et de dire, prier le Seigneur d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Ça tombe bien, on a besoin d'un pasteur. Ben, je vous propose de prier. Seigneur, tu connais la situation de notre Église. Tu connais la situation de notre ville. Nous sommes peu nombreux, appartenant à Villefranche ou à ses environs, ici dans cette salle ce matin, parce que beaucoup de gens ne te connaissent pas. Et nous te prions, Seigneur, d'envoyer des ouvriers. Et parmi ces ouvriers, tu connais notre besoin d'un pasteur. Alors nous le plaçons devant toi, Seigneur. Nous te prions de nous envoyer l'ouvrier que tu as choisi pour nous, pour ton Église, pour que ton nom puisse être mieux connu dans notre quartier, dans notre ville. Amen. Alors au verset 7, il y a un point intéressant, un peu technique, mais intéressant. L'ouvrier mérite son salaire. Qu'est-ce que ce verset a de particulier? Pas tous à la fois. C'est logique, oui, c'est logique. Mais ce verset a quelque chose d'unique dans l'Écriture. Non. Alors, je vais vous inviter avec moi à lire 1 Timothée 5, verset 18. Il est question des anciens et du pasteur qui doivent être bien payés dans une église. C'est ce dont parle 1 Timothée 5, 18. À propos, vous pouvez doubler mon salaire, hein, ça ne changera pas grand-chose sur le budget de l'Église. Et Paul dit, car l'Écriture dit, tu n'en muselleras pas le bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Donc cette phrase, l'ouvrier mérite son salaire, n'existe que là, dans l'Écriture, dans toute la Bible. Et Paul dit, l'Écriture dit. C'est-à-dire que pour Paul, l'évangile de Luc fait partie de l'Écriture. Au même titre que la première phrase qui dit, tu n'en muselleras pas le bœuf, qui lui est une citation de Deutéronome. Donc, vous voyez où je veux en venir? C'est la seule phrase du Nouveau Testament qui est citée ailleurs dans le Nouveau Testament en disant « ça, c'est l'Écriture ». C'est-à-dire que Paul est en train de nous dire que ce que Luc a écrit, c'est aussi important que le Deutéronome. Bon, c'est un peu technique, mais quand nous pensons, après Paul dira « toute Écriture est inspirée de Dieu », bien sûr, pour nous, c'est un parlant, mais on peut dire, mais de quoi il parle? Est-ce qu'il parle que de l'Ancien Testament quand il dit toute Écriture est inspirée de Dieu? Eh bien, on voit qu'il connaissait l'évangile de Luc et qu'il le cite comme étant l'Écriture sainte. Voilà. Alors, c'est un peu technique, mais c'est quand même intéressant. Voilà. Je vous avais fait une petite. Si quelqu'un vous écoute, a dit Jésus, c'est moi qui l'écoute. Et s'il vous écoute, il écoute celui qui m'a envoyé. C'est le texte qu'on a lu tout à l'heure. Est-ce que nous sommes conscients que parfois nous sommes les porte-paroles de Jésus, les porte-paroles de Dieu? Voilà, les 70 sont partis, des fois ils pouvaient être 72 même, ils sont partis et ils sont revenus. Et comment ils sont quand ils sont revenus? Ils sont joyeux. Et de quoi sont-ils heureux? De leur succès sur quoi? Sur Satan, sur les démons. Dans tout ce qu'ils disent, Seigneur, même les démons nous sont assujettis. Qu'est-ce qu'on est costaud? Qu'est-ce qu'on est fort? Tu te rends compte un peu, Seigneur, la puissance qu'on a? On comprend que... Enfin, on voit que Jésus... doucement, hein? C'est pas de ça dont il faut vous réjouir. Réjouissez-vous plutôt que ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Parce que si vous vous réjouissez des moyens et pas du but ultime, vous faites les choses à moitié. Est-ce qu'il peut nous arriver d'avoir le même genre de joie? C'est vrai que tu n'as jamais guéri qui que ce soit. Moi, j'espère qu'un peu aussi, un peu des fois, ça peut m'arriver, mais peut-être pas forcément grâce au don surnaturel du Seigneur. Hein. Mais est-ce qu'il ne nous arrive pas parfois de nous réjouir plus des moyens que nous employons que des résultats que nous obtenons? Faisons une grande réunion. Un concert. Ah ben tiens, on a reçu les affiches de Pierre Lachat, je vous les montrerai. Voilà, il y a du monde. On est content. On est heureux. Qui s'est donné au Seigneur pendant ce concert-là? Ah, on est moins heureux. Enfin, peut-être. On se console en disant, oui, mais peut-être la prochaine fois, les gens ont besoin d'entendre plusieurs fois, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais parfois, nous nous réjouissons des moyens, alors que nous aurions dû nous réjouir de vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans les cœurs ? Et non pas des décibels qu'on a pu envoyer dans l'atmosphère. Les disciples auraient pu se réjouir en revenant, en disant « Seigneur, on est vraiment reconnaissant de la façon dont on nous a écoutés, dont on a écouté ton message, dont on a été reçu. On est vraiment heureux d'avoir rencontré des hommes de paix, des hommes qui sont prêts, Seigneur, à t'accueillir quand tu vas arriver. » En fait, c'est pas vraiment... Bon, j'extrapole un peu. Peut-être ils se sont réjouis de ça aussi. Mais quand même, ce qui surnageait, c'était le pouvoir. Et il faut que Jésus leur dise, mais c'est moi qui vous ai donné ce pouvoir. C'est pas votre pouvoir, c'est le mien. Et justement, je vous propose de sauter cette diapo. Parce que, bon, c'est toute une étude sur la destinée de Satan. On verra une autre fois, vous êtes d'accord ? Oui, ben, tant mieux. Et donc, qui leur a donné le pouvoir sur ces démons ? Eh ben oui, c'est Jésus. C'est Jésus qui leur a donné ce pouvoir. Hein. Et ce pouvoir était même une délégation de pouvoir de la part du Père. Hein ? Si nous pouvons un jour apporter quelque chose dans la vie de quelqu'un, n'oublions pas que ce n'est pas notre parole, mais c'est toujours parce que le Saint-Esprit a parlé. Par notre bouche, par notre attitude, mais ce n'est pas nous qui devons en avoir la gloire. Je vous invite à lire Actes, chapitre 3. Verset 12. Nous sommes peu de temps après la Pentecôte, peu de temps après que Jésus ait quitté ses disciples. Donc, les disciples maintenant sont seuls, ils ont reçu le Saint-Esprit, et on trouve donc Pierre et Jean qui marchent dans la ville et qui voient un homme paralysé qui leur demande l'aumône. Et Pierre a cette réponse, « Moi, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Et il va guérir cet homme paralysé. Et les gens sont tout étonnés et commencent à tresser des couronnes, si on peut dire, à Pierre et à Jean. Et donc au verset 12, « Pierre, à cette vue, dit au peuple, « Vous, les Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était nous, par notre propre puissance ou par notre piété, qui avions fait marcher cet homme ?» Et après, il explique qui était Jésus. « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui avait jugé bon de le relâcher. Mais vous, vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé comme une faveur qu'on vous remette un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de nous tous. » Pierre tient bien à mettre les choses au point. Ce n'est pas moi qui ai guéri cet homme. Ce n'est pas moi qui ai permis à telle personne ou telle personne de se tourner vers le Seigneur. Je n'étais qu'un intermédiaire. Je n'ai fait que retransmettre ce que j'avais reçu. La puissance qui peut venir de moi n'est pas la mienne, c'est celle de Dieu, c'est celle du Saint-Esprit. Et finalement, est-ce que nous devons, nous aussi, comme les disciples, combattre les démons? Eh bien oui, nous avons à combattre des puissances mauvaises. Et vous savez ce que dit l'Épître aux Éphésiens? Nous n'avons pas à lutter contre des hommes, mais contre la puissance de Satan. Pas contre les hommes, mais contre les dominations du monde des ténèbres. Et nous avons, dans la suite de l'Épître aux Éphésiens, les armes que Dieu nous donne pour lutter contre... Alors ces armes, elles nous sont imagées par des pièces de l'équipement d'un homme d'armes. Mais ces armes, c'est quoi? Vous pouvez m'en citer quelques-unes? Alors, si on enlève les comparaisons, c'est quoi? La foi, la vérité, la justice, le désir de paix que donne l'Évangile, la foi, la certitude du salut, la parole de Dieu reconnue vraie par l'Esprit Saint et la prière en tout temps. Alors, pour finir, qu'est-ce qui doit vraiment nous réjouir? Que notre nom soit inscrit dans le ciel. Je me réjouis que mon nom soit inscrit dans le ciel. Je me réjouis que votre nom soit écrit dans le ciel. Dans ce ciel où, selon l'Apocalypse 21, il n'y entrera rien de souillé, personne qui se livre à l'abomination ni au mensonge, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Quelles que soient les circonstances, nos noms sont inscrits dans les cieux, dans le livre de vie de l'agneau. Alors je vous invite à conclure sur ce texte qui nous a parlé de notre mission, de ce que nous devons faire, mais qui nous parle aussi de nos limites. Même si nous sommes envoyés en mission, c'est pas nous, c'est pas notre puissance qui va convertir les personnes. Nous ne sommes que des messagers. Notre mission, annoncer la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la paix, que la paix soit avec vous, la bonne nouvelle de la paix retrouvée avec Dieu. Et c'est aussi d'avertir du jugement qui vient. En ce sens, nous sommes les précurseurs de Jésus, un peu comme Jean-Baptiste. Nous préparons les cœurs et un jour, le Saint-Esprit viendra et parlera. Nous avons à prier le Seigneur d'envoyer des ouvriers dans la moisson, parce que la moisson est grande et parce que ceux qui connaissent le Seigneur sont peu nombreux. Nous avons aussi à lutter, mais sans nous tromper d'ennemis. L'ennemi, ce n'est pas des hommes, mais c'est Satan, c'est les dominations mauvaises qui influencent notre monde et qui l'influencent de mauvaise façon. Et nous avons à nous réjouir. Que cela fonctionne ou que cela ne fonctionne pas, que les gens nous écoutent ou ne nous écoutent pas, nos noms sont écrits dans le ciel et personne ne pourra les effacer. Merci.